Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui mon invité, docteur Jean-Claude Dupuis, qui a complété un doctorat à l'Université Laval sur le catholicisme libéral de Monseigneur Taschereau et aussi une maîtrise à l'Université de Montréal sur Lionel Groulx. Puis, j'avais envie de l'inviter aujourd'hui pour discuter, en fait, parce que vous m'avez été recommandé, Dr. Dupuis. Récemment, Jonathan et moi, on commence à s'intéresser à l'histoire du Québec, notamment parce qu'il y a une recrudescence du nationalisme chez les jeunes présentement. Puis, on essaie de comprendre ça, puis d'appliquer certaines lumières symboliques à la situation dans le sillage des travaux que Jonathan et moi faisons depuis quelques années. Puis, on a récemment sorti un vidéo sur justement une approche vers cette problématique-là qu'on est en train d'aborder. Puis, on a demandé aux jeunes de nous recommander des ressources, puis votre nom est ressorti. Puis, j'ai regardé plusieurs de vos vidéos, notamment une série qui était sortie que je vais recommander, l'histoire du Canada français qui est disponible sur YouTube, une dizaine d'épisodes sur l'histoire du Québec, l'histoire du Canada français que j'avais bien aimé puis qui m'avait soulevé quelques questions. Puis j'ai décidé d'en profiter pour vous inviter à parler de tout ça. C'est un sujet très vaste, évidemment, là, mais justement, j'ai envie de commencer avec des questions générales. Puis après, on va continuer la conversation dans des points précis si on juge que c'est pertinent.
Je vous remercie d'abord beaucoup de votre invitation. Et oui, il faut absolument s'intéresser à l'histoire. Et ça me rappelle une phrase de Lionel Groulx qui disait: Ils gardent l'avenir, ceux qui gardent l'histoire. Alors, donc, effectivement, la jeunesse doit se former à l'étude du passé. Notre maître, le passé, c'était une autre formule de Lionel Groulx. Vous allez voir, je vais citer souvent Lionel Groulx, qui est vraiment mon maître à penser numéro un.
C'est bien, je dirais que ça fait partie des choses comme qu'il faut qu'on redécouvre là, pour donner un peu plus de contexte même sur la situation. Il y a beaucoup une des choses dont moi puis Jonathan s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge, puis plus jeunes aussi, sûrement un peu plus vieux aussi, qui connaissent à peu près rien en fait de l'histoire du Québec. Puis pas parce qu'on n'a pas eu de cours, mais souvent les cours qu'on recevait ou la façon dont c'était enseigné, c'était jamais assez positif. Il n'y avait pas de héros dans notre histoire dont on était fiers. Puis ça faisait que on pouvait apprendre certains faits ici et là, mais il n'y avait rien de, disons, assez positif pour qu'on veuille s'en rappeler, que ce soit intéressant. Puis ça fait que beaucoup de monde, justement, ont juste oublié leur histoire. Fait. Et comme d'une part, ce qu'on veut réussir à faire, c'est raconter de façon positive l'histoire du Québec avec ses héros, donc des figures peut-être comme Lionel Groulx. Mais de l'autre côté aussi, il va falloir qu'on apprenne à désamorcer les façons négatives de raconter notre histoire qui ont été propagées puis avec lesquelles on est plus familier, les gens de ma génération. Donc, j'ai envie de lancer la discussion justement dans la lignée de ma première question ou de mon premier, cette première ligne d'attaque, comment raconter l'histoire du Canada français de façon positive. À travers les vidéos que j'ai écoutées de vous, une des choses qui m'avait frappé, c'était à quel point c'était étonnant que le peuple canadien français ait réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. J'avais envie de vous poser ça comme question générale. Comment ça se fait que le peuple canadien français est encore là malgré toutes les difficultés qu'il y a eu à travers le temps?
Vers 1900, il y avait un grand écrivain nationaliste français, Maurice Barrès, qui avait fait un voyage au Québec, puis qui avait lancé l'expression le miracle canadien, en parlant de la survivance des Canadiens français. À l'époque, on employait le terme canadien dans le sens de Canadien français, là. C'était sa vieille acception. Et l'expression est restée, a été retenue dans notre littérature par la suite. Et effectivement, on peut dire que la survivance française sur les rives du Saint-Laurent, c'est un miracle. Mais attention, quand on parle d'un miracle, il s'agit de quelque chose qui va contre les lois naturelles. C'est pas tout à fait miraculeux, mais c'est, je dirais, providentiel. C'est-à-dire que c'est un ensemble de circonstances qui ont permis la survivance du peuple qui avait été conquis en 1760. Il faut se rappeler qu'en 1760, on est à peu près 70 000 Français. Après la conquête, il y en a 10 000 qui retournent en France. Enfin, c'est en général ceux qui étaient nés en France, les métropolitains, et ceux qui étaient nés au Canada, qu'on appelait déjà des Canadiens, eux sont restés. Mais 60 000, c'est pas beaucoup si on compare que les Anglais des 13 colonies américaines étaient à peu près 1,5 million à ce moment-là. Si vous faites le pourcentage, là, on était peut-être 3 ou 4 % de l'Amérique du Nord et on est encore 3 ou 4 % de l'Amérique du Nord. Hein, finalement, les proportions ont pas tellement changé. Alors, qui aurait cru qu'un petit peuple de 60 000 habitants aurait survécu à la conquête du plus puissant empire de l'époque, l'Empire britannique, 2 siècles et demi après? Ce qui nous a sauvés, en quelque part, c'est la structure économique du Canada. En fait, la seule activité économique vraiment rentable qu'il y avait au temps de la Nouvelle-France, c'était le commerce de la fourrure. Et le commerce de la fourrure, ça n'exige pas beaucoup de main-d'œuvre. En fait, c'était les Indiens qui allaient chercher la fourrure, c'était des coureurs de bois canadiens qui les amenaient à Montréal, et c'était des marchands français de France qui embarquaient ça pour l'Europe. Alors, ce qui est arrivé après la conquête, c'est que la structure économique est restée la même. Sauf que les marchands français ont été remplacés par des marchands anglais. Mais c'était encore des Indiens qui allaient chasser la fourrure, c'était encore les mêmes Canadiens français qui les transportaient, de telle sorte que à Londres, on s'attendait à une forte immigration anglaise qui aurait rapidement noyé évidemment la population française et catholique de la vallée du Saint-Laurent. Mais cette immigration-là, elle n'est pas venue. De telle sorte que les Canadiens français vont rester à peu près 95 % de la population pendant les 50 premières années du régime britannique. 5 % de la population, 4 ou 5 % des Anglais, ne pouvaient pas assimiler le reste. C'est impossible. C'était en fait les Anglais qui s'installaient ici qui apprenaient le français. Et puis les Canadiens qui voulaient, on a ça par les textes, les Canadiens qui voulaient apprendre l'anglais avaient beaucoup de difficultés parce qu'ils n'en rencontraient pas d'anglais. Ils ne pouvaient pas pratiquer. Alors, mais finalement, la structure économique du Canada va changer à peu près dans les années 1820. Et là, c'est l'industrie du bois qui va remplacer l'industrie de la fourrure comme moteur économique de la colonie. Et ça exigeait beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est là que l'immigration va nous arriver des îles britanniques, anglais, écossais, irlandais. Mais ce qui est arrivé, c'est que le 50 ans de répit qu'on a eu, mettons, entre 1760 et 1820, a permis aux Canadiens, grâce à leur forte natalité, d'occuper quasiment toutes les terres dans la vallée du Saint-Laurent. De telle sorte qu'il n'y avait plus de terres agricoles disponibles. Donc, quand les Anglais vont arriver, ils vont aller plutôt s'installer dans les provinces maritimes et en Ontario. En fait, dans ce qu'on appelait le Haut-Canada à l'époque ou la Nouvelle-Écosse, là. Il y en a un peu qui vont s'installer dans la vallée du Saint-Laurent et ceux qui vont le faire essentiellement dans les villes, à Québec et à Montréal. Québec et Montréal vont être des villes majoritairement anglaises pendant tout le 19e siècle. Même en 1900, ça fait drôle de penser ça aujourd'hui, mais en 1900, 40 % de la population de la ville de Québec est anglophone. Aujourd'hui, les anglophones ont complètement disparu de Québec. Alors, donc, ce répit nous aura permis finalement de survivre. Hein? Le grand historien québécois Michel Brunet avait une belle formule. Il disait, en histoire, il y a trois choses qui comptent. La première, c'est le nombre. La deuxième, c'est le nombre. La troisième, c'est le nombre. Il dit, après, on peut commencer à parler d'autre chose. Or, c'est ça, c'est que ce fameux commerce de la fourrure, qui explique le sous-peuplement de la Nouvelle-France, à l'époque où on était sous la couronne de France, bien, ça explique aussi le sous-peuplement britannique. Ce qui nous a coulés au temps de la Nouvelle-France nous a sauvés au temps du régime britannique. Et c'est pour ça que je parle de quelque chose de providentiel. Nos ancêtres disaient, ben, c'est tellement miraculeux, providentiel, extraordinaire, que le bon Dieu avait certainement des vues sur ce peuple-là. Il voulait qu'il survive. Bon, je ne sais pas si le bon Dieu voulait que les Canadiens français survivent, mais en tout cas, ils ont effectivement survécu. Alors ça, c'est le facteur démographique et économique qui est certainement le plus important. Mais se sont rajoutés d'autres facteurs. Peut-être moins important, mais donc il faut quand même mentionner, on a eu une grande chance. Quand on est tombé dans l'Empire britannique d'Amérique du Nord s'est scindé en deux. Et on est resté dans la partie la plus faible, hein, dans ce que l'historien Maurice Seguin appelait le British North America, une expression qui n'a pas été retenue bien gros, mais il y avait les United States of America et puis il y avait le British North America et nous, on était dans le British North America, ce qui fait qu'en réalité, on est resté majoritaire, les Français sont restés majoritaires jusqu'à peu près en 1850. Alors là, ça nous donnait quand même un poids politique qui était considérable. S'il avait fallu qu'on se joigne à la Révolution américaine, comme certains le voulaient, certains historiens d'ailleurs, je pense à un historien comme Hector Grenon, qui, bon, ce n'est pas un historien faramineux, mais c'est un de ceux qui dit nos ancêtres ont manqué une chance historique. De ne pas se joindre à la Révolution américaine, ben non, dans la Fédération américaine, on devenait 3, 4, 5 % de la population, alors que dans le Canada britannique, on est resté plus de 50 % jusque vers 1850. Et dans ce qui est maintenant le Québec, ben les Anglais vont atteindre un pourcentage de 25 %. En 1867, les anglophones étaient 25 % de la population au Québec. Et c'est le maximum qu'ils ont atteint. Bon, actuellement, on parle de 22 %. Ils ont descendu jusqu'à 18 % dans les années 1980, mais là, ils sont en remontée à cause, évidemment, de l'immigration qui opte pour la langue anglaise plutôt que la langue française. Parce que, comme tel, les Anglais au Québec, là, les vrais Anglais, là, s'il n'y avait pas l'immigration, ils seraient 4 %. Donc, fondamentalement, les Anglo au Québec ne comptent pas plus que les francophones en Ontario. Alors, ces facteurs-là qui expliquent la survivance. Mais là, j'ai parlé de facteurs plutôt événementiels, si on peut dire, en fait, qui ne dépendaient pas de nous. Mais attention, il faut quand même se rappeler que nos ancêtres ont mené également un combat de survivance. Ils n'avaient pas voulu continuer à vivre en français et dans la religion catholique, ben, il aurait fait, on se serait sans doute assimilé. Il faut toujours quand même qu'il y ait une certaine volonté de survie nationale.
Oui, ben c'est une des choses là-dessus qu'on entend souvent, c'est la natalité justement des Canadiens français catholiques. Puis là, tu sais, il y a des croyances là-dessus que c'est peut-être poussé par l'Église agressivement versus pas agressivement. À quel point vous pensez que ça a joué un rôle, tout ça, dans la survie du Québec?
Ben, il y a un peu un mythe, hein, de croire que les Canadiens français avaient un taux de natalité plus élevé que les Anglais, c'est pas vrai. Vous regardez au 19e siècle, le taux de natalité des Anglo-protestants en Ontario, puis le taux de natalité, des Franco-catholiques au Québec, c'est à peu près la même chose. En fait, il y a eu un certain décalage pendant certaines décennies au début du 20e siècle, je dirais entre 1920 et peut-être 1950. L'Ontario avait peut-être un taux de natalité un petit peu plus bas, mais c'est parce qu'il était plus urbanisé. En fait, ce qui fait baisser le taux de natalité, c'est l'urbanisation. Et comme l'Ontario avait une certaine avance sur le Québec dans le domaine de l'industrialisation, oui, ça s'est ressenti un petit peu sur le plan démographique, mais encore là, vous regardez les taux de natalité, mettons en 1950, différence entre le Québec et l'Ontario, c'est plutôt minime. C'est plutôt minime. Et si vous allez, par exemple, dans les régions plus rurales du Canada anglais, provinces maritimes, provinces de l'Ouest, ils vont avoir un taux de natalité plus élevé qu'en Ontario. Alors, il y a un petit peu un mythe là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de l'Église qui aurait encouragé la natalité, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par des historiens de la démographie récemment au Québec et c'est un mythe. Dans les sociétés rurales du 19e siècle, on n'avait pas besoin d'encourager la natalité parce qu'un enfant qui naissait, c'était un travailleur. Hein? C'est dans les sociétés urbaines où l'enfant devient finalement une charge plus qu'un avantage économique. Alors, c'est pour ça que dans les sociétés urbaines, on diminue le taux de natalité. Et plus la population est scolarisée, plus l'enfant est à charge des parents longtemps. Donc, plus le taux de natalité baisse. Alors non, le comportement démographique du Québec est assez comparable à ce qu'il y a eu ailleurs en Occident. Pour ce qui est du fameux discours nataliste qu'on reproche à l'Église, là, qui encourageait même sous menace de l'enfer et de péché mortel, là, qu'il fallait avoir des enfants tous les années, c'est de la pure légende. Et c'est une légende qui a été construite après 1960. Vous ne trouvez pas ça, vous ne trouvez pas des preuves de ça dans les textes d'avant 1960.
Ça vaut la peine d'en parler, là, en général, comment est-ce que l'histoire a été réécrite par la Révolution tranquille? Donc là, vous venez de mentionner un mythe, là, puis c'est, tu sais, j'essaie de me placer dans la tête parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, ben ma grand-mère m'a dit telle, telle chose », mais j'imagine que c'est facile pour les gens, mettons, si... Mettons, ce qui s'est passé dans les faits, c'est peut-être que l'Église interdisait la contraception versus les Canadiens anglais protestants chez qui c'était permis, là. Des décennies plus tard, avec la Révolution tranquille, c'est facile de se rappeler de ça comme si tu te manufactures le souvenir où, en fait, l'Église forçait les gens à avoir des enfants, alors que ce que l'Église faisait, c'était dire aux gens de ne pas utiliser la contraception, par exemple. Pensez-vous que c'est le genre de réécriture, tu sais, qui s'est fait dans la Révolution tranquille?
Oui, effectivement, quand on lit les livres qui ont été qui portent sur ce sujet-là, d'ailleurs, je consacre dans mon dernier livre, Maître chez nous, j'ai un chapitre sur la légende du cléricho-natalisme. Alors, oui, effectivement, les témoignages qui ont été faits, premièrement, il n'y en a pas beaucoup. Des témoignages réels, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, les historiens n'ont pas trouvé beaucoup. Et souvent, les gens confondent effectivement la condamnation de la contraception artificielle. Hein, l'Église condamnait la pilule anticonceptionnelle, mais la pilule anticonceptionnelle, elle apparaît en 1960. Donc, l'Église n'avait pas de discours avant ça. Et il y a eu un flottement pendant quelques années sur l'attitude morale adoptée par rapport à la pilule anticonceptionnelle. Parce que l'Église, depuis en fait le pape Pie XII, donc on parle des années 1940-50, admettait le principe de la régulation naturelle des naissances. Donc une certaine, on n'employait pas le mot limitation, birth control. Hein, ça, l'Église catholique n'avait pas l'expression birth control parce qu'il venait des protestants en fait. Alors, on employait l'expression régulation des naissances, mais ce qui, à toute fin pratique, revient à peu près au même. Alors, donc, non, l'Église a toujours, en fait, le clergé avait comme attitude, en fait, ça se résume en un mot, il faut avoir le nombre d'enfants qu'on est capable d'avoir sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, sur le plan économique aussi. Mais bon, c'est vrai que dans une société comme la nôtre, on est rendu avec un taux de natalité au Québec de 1,3, alors qu'on est quand même dans une société pas mal riche. Est-ce qu'on a toute la générosité qu'il faudrait par rapport à la vie? Non, là, je pense que peut-être pas. On pourrait en avoir un peu plus.
Ouais, certainement. Donc, retournons à la Révolution tranquille plus largement. Comment est-ce que vous expliquez que ça s'est passé, ce phénomène-là de Révolution tranquille?
Bon, premièrement, il faut d'abord définir c'est quoi la Révolution tranquille. Hein, c'est une espèce d'expression fourre-tout. Mais l'idée principale, en fait, l'événement central de la Révolution tranquille, c'est finalement la laïcisation de la société canadienne-française et plus particulièrement de son système d'éducation. Pourquoi voulait-on laïciser le système d'éducation au Québec? Bon, ça s'est fait par la commission Parent, mais bon, la commission Parent voulait pas laïciser, voulait pas sortir l'enseignement religieux des écoles. Elle voulait laïciser les structures, mais elle ne voulait pas sortir le crucifix des classes, comme on dit. Au contraire, quand vous lisez les textes du rapport Parent, on fait l'éloge de l'enseignement religieux, son importance dans notre histoire, dans la société. Bon. Mais ça, c'est ce qu'il écrivait dans le rapport officiel, mais au fond, il voulait aller plus loin que ça. Et on le voit notamment chez un des commissaires qui a quand même été assez important, c'était peut-être pas le plus important, il est mort récemment, Guy Rocher. Le sociologue, le célèbre sociologue Guy Rocher, qui est mort à plus de 100 ans, alors qui se présentait comme un bon catholique dans les années 60, ou alors qu'il siégeait sur la commission, il allait à messe à tous les dimanches. S'il n'avait pas été à messe à tous les dimanches, on ne l'aurait pas nommé sur cette commission-là. Mais quand il est mort, ben finalement, il n'y a eu aucune funéraille religieuse. Alors, on sait maintenant que le gars était un athée, il a caché une grande partie de sa vie. Il y avait ces gens-là, beaucoup au Québec, qui étaient athées, mais qui gardaient ça très secret. Prenons par exemple l'intellectuel André Laurendeau, qui dirigeait le journal Le Devoir. Ça, ce n'est un qui était athée depuis sa jeunesse. On le sait après sa mort parce que sa correspondance, puis ça a été publié. Il a perdu la foi au début de la vingtaine. Mais il était directeur du journal Le Devoir, qui était un journal catholique. Alors, il allait à la messe à tous les dimanches. Il n'aurait pas pu garder son poste. Alors, il y avait beaucoup de gens comme ça qui, au fond, avaient déjà perdu la foi avant 1960, mais qui faisaient semblant de l'avoir pour garder des positions. Parce que quand on n'était pas catholique au Québec, à cette époque-là, on ne pouvait pas faire une carrière très, très brillante, là. Donc, la question, c'est comment expliquer ça? Ben, un des facteurs qui explique la réforme de l'éducation dans les années 60, c'est ce que j'appelle le mythe weberien. Hein, Max Weber, le fameux sociologue allemand, qui disait que si les populations d'Europe du Nord étaient plus avancées économiquement que celles d'Europe du Sud, c'est parce qu'ils étaient protestants. Hein, il écrit un livre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, quelque chose comme ça. Alors, mais en fait, je l'ai lu Max Weber, hein, puis c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Ce qu'on fait dire à Max Weber, ce qu'on attribue à Max Weber et ce qu'il a réellement dit, c'est pas toujours la même chose. J'ai été très surpris en le lisant de voir qu'il a beaucoup plus d'estime pour la religion catholique que pour la religion protestante. En fait, le matérialisme qu'il associe à la religion protestante, c'est pour condamner le protestantisme. Mais en fait, la question est pas là. La question est, c'est que ce que Weber disait, c'était en fait un préjugé qui était profondément enraciné chez les anglo-protestants depuis le 19e siècle. Les catholiques sont inférieurs, notamment sur le plan économique, parce que là, dans l'esprit capitaliste, on juge la supériorité d'un peuple en fonction de sa productivité économique. Alors donc, les catholiques sont inférieurs sur le plan économique parce qu'ils sont catholiques. Et au Québec, ce préjugé anglais, on l'a assimilé. On l'a, beaucoup de nos élites intellectuelles l'ont assimilé. Et leur argument, c'était que ben, les Anglais ont plus le sens des affaires que les Canadiens français. Et pourquoi? Parce qu'ils sont protestants. On n'allait pas jusqu'à dire qu'il fallait être protestant, mais on allait jusqu'à dire qu'il fallait imiter leur système d'éducation pour acquérir leur sens des affaires. Et le système d'éducation qu'on voulait imiter, c'était évidemment le système d'éducation américain. Parce que dans les années 1960, c'est les États-Unis qui ont le prestige, et plus tellement l'Angleterre. Et il faut lire le rapport Parent, l'éloge naïve, vraiment naïf, là, une naïveté incroyable qu'ils ont par rapport aux États-Unis. Ils sont en pamoison devant les États-Unis parce que les Américains font la conquête de l'espace. Et donc, il faut imiter leur système d'éducation pour être capable de relever le défi de la concurrence en Amérique du Nord. Alors, c'est pour ça que le système d'éducation qui est issu de la réforme Parent, c'est un système d'éducation qui a été conçu essentiellement pour former, je dirais, des ingénieurs, mais surtout des hommes d'affaires. Avant, ce qu'on voulait former dans le cours classique, en fait, le collège classique qui était le sommet de notre système d'éducation, le collège classique était fait pour former des prêtres. Même si tous ceux qui allaient au collège classique ne devenaient pas prêtres, ils pouvaient devenir avocats, médecins, quoi. Mais il y avait une formation, une culture. Dans toute société, il y a une espèce de modèle d'homme, si on veut. Au Moyen Âge, par exemple, c'était le moine ou le chevalier. Au 19e siècle, ça va devenir l'entrepreneur, hein, l'homme d'affaires. Aux États-Unis, c'est le self-made man. Mais nous, dans notre culture française et latine, c'était le prêtre. qui servait de modèle. Ça ne veut pas dire que tout le monde devait être prêtre, mais tout le monde devait un peu ressembler, avoir le type de culture. Mais là, on a remplacé ça par un type de culture qui idolâtrait l'ingénieur. Alors, c'est pour ça qu'on est passé d'un système d'éducation où la discipline maîtresse, c'était le latin, un système et la philosophie. Le latin devait conduire à la philosophie, philosophie thomiste. Et on est passé de ça à un système d'éducation où c'était les mathématiques et les sciences qui étaient la discipline maîtresse. Alors, c'est un changement de civilisation qui s'est opéré. Lionel Groulx avait fait une belle critique du rapport Parent en 1966 dans un article de la Revue d'histoire d'Amérique française. Il disait, au moment même où l'État québécois veut se nationaliser, hein, parce qu'il y avait quand même montée du nationalisme, de l'indépendantisme, il y a quand même des bonnes choses qui se sont faites dans les années 1960, là, tout n'est pas à rejeter, et une des bonnes choses, c'est l'affirmation de l'État national québécois. Mais cette affirmation-là, en fait, elle avait commencé avant, au temps de Duplessis. En fait, ce qu'il y a de bon, vous remarquez que ce qu'il y a de bon dans la Révolution tranquille, c'est ce qui avait déjà été commencé au temps de la soi-disant grande noirceur Duplessis. Alors, toujours est-il que Lionel Groulx disait qu'au moment où l'État québécois veut se nationaliser, ben, on est en train de dénationaliser notre système d'éducation en imitant finalement le modèle américain. On a remplacé le collège classique par le high school de type américain, surtout développé par le pédagogue Dewey dans les années 1920. Alors, c'est ça la grande révolution. D'ailleurs, quand vous voulez changer une société, c'est par le système d'éducation. Si vous voulez faire une révolution, là, changer le système d'éducation et votre révolution, vous allez l'avoir dans 20, 30, 40 ans.
C'est intéressant comme vision de la Révolution tranquille parce que ça me parallèle une des choses principales autour des travaux de Jonathan puis de ce qu'on essaie de faire en français ici qui s'appelle la crise de sens. C'est quelque chose qui est devenu très connu dans le monde anglophone et qui commence à faire de la place aussi dans le monde francophone. C'est un phénomène, tu sais, qu'on peut analyser à plusieurs niveaux, là. Ça m'a surtout intéressé au niveau philosophique. J'ai fait des études en philosophie spécifiquement là-dessus. Ce qu'on peut regarder en philosophie, c'est comment les gens sont devenus matérialistes à tous les sens du terme, là. Donc, à la fois au sens métaphysique où les gens ont de la misère à percevoir autre chose que la matière dans leur vision du monde, dans leur ontologie. Des concepts comme l'âme, comme l'esprit, ça devient de plus en plus difficile d'en parler. Mais aussi matérialiste au niveau juste économique, là, où les gens donnent de la valeur juste aux choses matérielles. Puis, ce que je trouve intéressant dans la façon de voir la Révolution tranquille que vous dites, c'est que on a finalement été, disons, absorbé ou assimilé par les Anglais à travers la Révolution tranquille en adoptant au final le système de valeurs qui avait été développé par justement le monde matérialiste des Britanniques puis des Américains. On a fini par donner, disons, la première place aux connaissances matérielles, techniques, puis mettre la métaphysique, la philosophie en second. On a fini par donner plus de valeur en morale à l'individu, à ses choix libres, puis pas considérer les groupes. Puis ça a amené à plein de choses qu'on connaît aujourd'hui. Les gens se sentent atomisés, les gens se sentent pas comme faisant partie du monde non plus. Les gens sont pas bien dans leur corps. Les gens vont plein de gens qui pensent que la vie a juste pas de sens. Plein de gens qui pensent que l'esprit humain c'est un genre de d'illusion à la limite, là, créée par la sélection naturelle pour qu'on veuille se reproduire, mais pour de vrai c'est pas quelque chose qui a de la valeur. Enfin, bref, il y a un gros problème qui intéresse Jonathan, qui m'intéresse aussi, c'est la crise de sens, comment lui répondre. Mais on dirait une des façons dont ça vient s'incarner spécifiquement chez nous ici, au Québec, chez les Canadiens français, c'est, disons, ça s'est passé rapidement, beaucoup dans les années 60 avec la Révolution tranquille, où on a comme fait rentrer volontairement toutes ces valeurs-là, cette vision du monde matérialiste-là, du Canada anglais puis des États-Unis.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, une expression maîtresse du rapport Parent, c'était, et de la Révolution tranquille aussi, c'était d'acquérir l'esprit pratique des Anglais, le practical mind. Hein. Mais il ne faut pas penser que c'est né en 1960. En fait, les idées de la Révolution tranquille étaient déjà là bien avant. On peut les faire remonter au 19e siècle. Il y a toujours eu chez les élites canadiennes-françaises une certaine frange qui voulait finalement qu'on imite les Anglais. Alors, comment qu'on réagit par rapport à la conquête anglaise? Soit on imite le conquérant pour le battre sur son propre terrain, ou soit on essaie de construire autre chose. Alors, l'école de Lionel Groulx, c'était l'école que il fallait construire une espèce de contre-modèle par rapport au matérialisme anglo-saxon. Et l'autre école, c'était celle du père Georges-Henri Lévesque, qui disait, ben non, au contraire, il faut aller chercher ce qu'il y a de bon, tout en gardant ce qu'il y a de bon chez nous, il faut aller chercher ce qu'il y a de bon dans la civilisation anglo-saxonne. Mais finalement, Lord Durham disait dans son rapport qu'il voulait donner aux Canadiens français le caractère anglais. Hein. Et c'était, pour lui, c'était un cadeau qu'il nous faisait. Il disait, il faut que les Canadiens français, qui sont un peuple sans histoire ni littérature, deviennent comme nous les Anglais pour pouvoir participer au développement de l'Amérique du Nord qui s'annonce extraordinaire. Ben finalement, le rapport Parent voulait faire exactement la même chose. Donner un esprit anglais à un peuple français. Il n'y a jamais personne qui a prôné l'assimilation à la langue anglaise, par contre. Hein, ça, même chez nos plus libéraux, nos plus antinationalistes, même Pierre-Elliott Trudeau était quand même un défenseur de la langue française. On voulait pas toucher à la langue française, mais on voulait toucher à l'esprit français. Hein, ce que Lionel Groulx et toute l'école de l'Action française appelaient l'esprit français. On voulait remplacer ça par un esprit finalement de type plutôt américain. Et ça a très bien réussi. Ça a très bien réussi. Une des choses qui me frappe, par exemple, c'est une inversion qu'il y a au Québec. Dans nos collèges classiques, disons-le, on n'était pas très fort en sciences et en mathématiques. Hein, dans les collèges anglais, on était supérieur là-dessus. Mais par contre, on était supérieur au niveau de la langue. Français, latin. Les sciences humaines, la philosophie, l'histoire, alors ça, on dépassait, ou du moins on pensait qu'on s'imaginait qu'on dépassait les Anglais là-dessus. Mais maintenant, si vous regardez les résultats scolaires qu'il y a au Canada, en termes de mathématiques, c'est les Québécois qui réussissent le mieux en mathématiques, et dans la langue maternelle, là, soit français ou anglais, les Anglais réussissent mieux que nous. Alors, il y a vraiment eu une inversion complète. Les sciences physiques sont devenues notre point fort et les sciences humaines notre point faible. C'est universel. Je dirais qu'on est rendu plus anglo-saxon que les anglo-saxons eux autres même.
Ouais, un genre de surréaction là, on a voulu tellement adapter ce que ouais, c'est je trouvais ça intéressant ce que vous disiez plus tôt sur le fait que il y avait des figures importantes au Québec de la Révolution tranquille qui avaient l'air d'être catholiques puis qui en fait l'étaient pas. Ça me donne envie de creuser un peu plus sur ce phénomène-là de comment est-ce que un peuple qui était autant catholique globalement a pu se retourner aussi vite contre l'Église. Est-ce que ce phénomène-là de gens qui prétendaient être catholiques, mais qui voulaient en fait, je sais pas s'ils voulaient détruire ou s'ils voulaient juste, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais c'est ce phénomène-là de gens qui voulaient tasser l'Église, faire plus de place à d'autres choses, à quel point c'était répandu selon vous, puis s'ils ont la cause maîtresse de ce qui s'est passé chez un peuple qui était autant catholique?
Non, la Révolution tranquille, les Québécois ne survirent pas contre l'Église. La Révolution tranquille, c'est une affaire qui est venue des hommes d'Église. C'est eux autres qui l'ont fait. Ils ont gardé le leadership. Alors, ils n'ont pas perdu le leadership des années 60. Ils vont garder le leadership de la société québécoise, je dirais, à peu près jusqu'en 1980. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un historien qui s'appelle Michael Gauvreau, alors qui est malgré son nom de famille française, c'est un anglophone, bien, il parle très bien français. Il a écrit un livre dont le titre dit tout, Les origines catholiques de la Révolution tranquille. Alors, la Révolution tranquille, ça a été une révolution qui a été faite en soutane. Hein? Je parlais du rapport Parent. Ben, c'était Monseigneur Parent, c'était le recteur de l'Université Laval. C'était tous des bons catholiques pratiquants qui étaient là. La Révolution tranquille a été préparée, en fait, dès les années 1930, par l'aile progressiste du clergé canadien-français, qui s'inspirait beaucoup, qui est à peu près au même diapason que le clergé progressiste français de la même époque. C'est ce qu'on appelle le courant démocrate chrétien, en fait. Le père Georges-Henri Lévesque était peut-être le plus célèbre représentant de ce courant de pensée. Alors, qu'est-ce que ces gens-là voulaient? La grande différence qu'il y avait entre Lionel Groulx et Georges-Henri Lévesque, c'est que pour Groulx, le nationalisme et le catholicisme allaient ensemble. Les démocrates chrétiens disaient non, il faut séparer le nationalisme du catholicisme parce que le catholicisme est quelque chose d'universel. Et si on est trop nationaliste, donc on est moins catholique parce qu'on perd le caractère universel du message de l'Église. Lionel Groulx disait non, non, parce que Jésus-Christ s'est incarné. Jésus-Christ lui-même avait un corps, était dans une race, il était juif, il avait une langue maternelle et tout ça. Alors donc, Groulx est un partisan de l'incarnation de l'universalisme catholique dans le particularisme national. Georges-Henri Lévesque, sans rejeter complètement le national, bien sûr, s'en méfie beaucoup. On veut faire une espèce de catholicisme universel. Alors, je dirais que c'est à peu près ça, les deux tendances qui ont prédominé.
Donc les démocrates chrétiens pensaient, se doutaient pas des répercussions que tout ça allait avoir. Il y a personne là-dedans qui s'attendait à ce que, disons, 40 ans plus tard, le taux de pratique du catholicisme au Québec soit en bas de 10%, disons.
Les révolutionnaires sont toujours des apprentis sorciers. Ils mettent le feu à la cabane, puis après, ils se désolent. Alors, ça, on a vu ça avec la Révolution française. Les philosophes des Lumières qui ont préparé la Révolution française, bon, soit ils étaient morts avant, comme Voltaire ou Rousseau, ou soit ils l'auraient condamné. Et les révolutionnaires ont ceci de particulier que ils disent toujours. Ce qui était avant nous, c'était pas bon. Mais ce qui est arrivé après nous, c'était pas bon non plus parce qu'on nous a mal compris. Alors, vous prenez par exemple la plupart de ceux qui ont fait la réforme Parent. Je pense au frère Untel, par exemple. Prenons le cas du frère Untel, Jean-Paul Desbiens, hein, qui est le père des cégeps au Québec. Il s'est désolé dans une entrevue qu'il a faite à Radio-Canada vers 1985 à peu près. Il se désolait de la baisse de la culture générale de la jeunesse au Québec, de la manque, du manque de qualité de la langue française dans les écoles et tout ça. C'était une critique acerbe, finalement, des fruits de la réforme scolaire que lui-même a faite. Mais tout ce qui a disparu, ce qui dénonçait, c'était dans les collèges classiques, puis c'est lui qui les a démolis.
Ouais, c'était comme
Mais
prévisible.
donc, finalement, le frère Untel pouvait porter un jugement négatif sur les fruits de la réforme scolaire, mais pas sur la réforme scolaire en tant que telle. C'est le syndrome, ce qu'on appelle parfois le syndrome du paysan de la Garonne.
J'ai jamais entendu ça.
Belle expression. Hein? Le paysan de la Garonne, c'est le titre des mémoires de Jacques Maritain, grand philosophe français, thomiste, et un de ceux qui a inspiré beaucoup Vatican II. Il était très proche de Paul VI, entre autres. C'est Paul VI, Montini, avant qu'il soit pape, avait traduit en italien le livre de Jacques Maritain. Alors, donc, il était vraiment très, très proche. Et dans ses mémoires qu'il a écrit à la fin de sa vie dans les années 1970, qui s'intitule Le paysan de la Garonne, il se désole de l'effondrement de l'Église, il regrette la belle époque de la messe en latin et tout ça, Donc finalement, il regrette tout ce qu'il avait largement contribué à détruire lui-même. Et je pourrais vous prendre tous les leaders de la Révolution tranquille, surtout de la réforme de l'éducation, et vous trouver des citations qu'ils ont faites à la fin de leur vie, qui allaient dans le même sens que celle du frère Untel. La religieuse qui participait à Sœur Cécile de Rome, j'ai oublié son nom civil, là, je dois dire, mais ben, elle aussi, elle se désolait de la baisse de la culture générale au Québec à la fin de sa vie et tout ça. Même le père Georges-Henri Lévesque a fait des commentaires très nostalgiques sur le Québec de sa jeunesse et tout ça, mais vous avez détruit tout ça. Et après, vous plaignez que ce soit plus là. Et après, la nouvelle génération, elle, ben, on lui a rien transmis. C'est ce que le frère Untel disait. Il dit, il y a une génération d'orphelins au Québec. On a parlé à un moment donné des orphelins de Duplessis. Ben, moi, j'espère qu'un jour, on va parler des orphelins de Paul Gérin-Lajoie. Des orphelins de la culture. C'était l'expression de Jean-Paul Desbiens, des orphelins de la culture.
Ben, je pense que ça commence à ressortir beaucoup, là. Il y a beaucoup de statistiques sur la détresse chez les jeunes, puis je pense que c'est beaucoup justement une question de comme aucune bonne vision du monde qui a été transmise, là. Comme vous dites, on est rendu très bon du côté des sciences physiques, des choses techniques, là, disons, du niveau des faits. Mais pour voir le but des choses, pour parler du sens de la vie, qu'est-ce qui est bien, comment grandir en vertu, ce genre de choses-là, les jeunes se sentent comme vraiment dépourvus. Puis il y a plein de statistiques qui le montrent, là. Plein de jeunes qui sont déprimés, qui rapportent qu'ils n'ont pas d'amis, qui savent pas qu'il y a un sens de la vie, etc. Ce genre de choses-là n'arrête pas de monter. Puis c'est une des raisons, je pense, pourquoi il y a un retour présentement, là. Beaucoup de jeunes commencent à se poser des questions. Ben, si tout ce qu'on m'a été transmis est manifestement un échec dans la vie des gens autour de moi, est-ce qu'il y avait quelque chose avant qui était mieux? Puis là, on voit des jeunes qui recommencent à retourner, par exemple, à la foi, puis qui se posent des questions, etc. Donc, il y a ce travail-là que Jonathan et moi, on essaie d'encourager aussi. Je trouve ça intéressant que, disons, je trouve ça le fun de cadrer, disons, l'échec des révolutionnaires tranquilles par un genre de naïveté sur comment ça allait se passer au niveau du terrain. Puis vous avez mentionné aussi Vatican II, parce que j'ai aussi entendu Ratzinger, Pape Benoît XVI, dire le même genre de choses sur Vatican II plus généralement, donc pas juste au Québec, mais en général, là, où... Puis c'est vrai, moi aussi, ça m'a quand même frappé, là, à cause de ce genre de discussion-là, je vois que le Concile a eu un impact important sur le Québec, et je vais essayer de lire les documents. Puis je trouve ça vraiment frappant de lire les documents en tant que tel, puis voir comment ce qui est appliqué sur le terrain, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans les documents, là. Il y avait un genre de naïveté, on dirait, où le clergé voulait changer certaines choses, puis après ils ont comme tout de suite perdu le contrôle pastoralement, où il y avait plein de journalistes sur le terrain avec les branches plus progressistes des évêques qui avaient des contacts avec ces journalistes-là, puis là c'est comme parti en peur tout de suite dans les médias, puis les gens se sont mis à implémenter tout de suite des choses en fait qui étaient même pas dans les documents. Ça a comme ça me fait penser à un parallèle avec ce que vous avez dit plus tôt, où la réforme parrain, etc. Les gens voulaient faire des réformes, changer quelques trucs, puis finalement, ça a déboulé beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient. Puis après ça, plus tard, on regrette les changements qu'on a faits.
Oui. Et une des choses qui m'a frappé quand on lit les textes de Vatican II et quand on lit le rapport Parent, c'est le même style littéraire. On voit que c'est la même génération, c'est les démocrates chrétiens, c'est la même, je dirais, la même naïveté, une illusion face à la modernité, à la technologie. Dans Vatican II, par exemple, le document sur les communications, oh, que c'était donc extraordinaire, la télévision. La télévision, c'était pour nous amener tellement de bienfaits. Bon, on a vu qu'est-ce que ça a donné, la télévision. Puis il y en a qui, à l'époque, le voyaient. Il y avait vraiment une naïveté de la part de... Mais je vous dis, c'est la caractéristique de toutes les révolutions à toutes les époques. Regardez la Révolution française, c'est des gens naïfs qui ont fait ça. Bon, il y avait aussi un paquet de crapules. Il y a toujours un paquet de crapules dans les révolutions. Mais je parle de ceux qui sont sincères. Ils sont naïfs parce qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de l'expérience humaine. Du côté des révolutions communistes, ça a été pareil. Il y a eu des gens, il y avait des très bonnes âmes qui étaient communistes et qui voulaient vraiment des changements, qui voulaient vraiment de la justice sociale. Mais on a vu l'horreur que ça a donné. Et puis, si on prenait la révolution protestante du temps de Martin Luther au 16e siècle, on pourrait trouver la même chose, un enthousiasme, et toujours cet enthousiasme de la modernité. Il ne faut pas tenir compte de l'expérience. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 1960, on décide de construire des grosses polyvalentes de 1000, 2000 élèves. Hein, 2000 élèves. Et bon, pourquoi? Parce qu'on dit, ben, ça va être bien mieux, on va pouvoir avoir plus de services, plus d'équipements, on va mettre tout en commun, il va y avoir une mobilité des enseignants, des élèves dans les mêmes édifices, donc ça va être multidisciplinaire. Ben, il y avait tout ce discours-là. Ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les polyvalentes de 2000 élèves. Mais savez-vous que ça avait déjà été expérimenté par les jésuites des écoles de 2000 élèves au 17e siècle? Il y avait eu une école modèle, une expérience qui avait été faite par les jésuites au 17e siècle, une école de 2000 élèves. Pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir rassembler les meilleurs professeurs, les meilleurs équipements. C'était exactement les mêmes arguments qu'on a employés au 20e siècle. Et on s'est aperçu que c'était un échec. Et finalement, les jésuites en sont arrivés à la conclusion pratique, après des siècles d'expérience, qu'une école de niveau secondaire ne doit pas dépasser 500 élèves. Après 500, on perd le contrôle. Et c'était les collèges classiques, c'était à peu près ça. Le maximum, là, c'était 500. Et quand il y avait trop d'élèves, on fondait un autre collège classique au lieu de l'agrandir. Alors, mais comment ça se fait que les gens qui ont fait le rapport parent ne connaissaient pas cette expérience-là, qui avait été très bien racontée dans un livre écrit par Monseigneur Georges Kurchain en 1927, qui s'intitule Nos humanités, où il expliquait toute la pédagogie du collège classique. Et il expliquait notamment ça, 500, c'est le maximum qu'il ne faut pas dépasser si on veut garder une école de qualité. Est-ce que Monseigneur Parent n'avait jamais lu le livre de Monseigneur Courchesne? J'ai de la misère à croire. Mais quand vous partez du principe que nous sommes dans une nouvelle époque dont toutes les leçons du passé ne nous servent plus à rien, l'homme est nouveau, il y a une nouvelle humanité.
Pour les gens qui sont pas en éducation, pouvez-vous donner des exemples de problèmes qui arrivent comme à plus que 500 étudiants? C'est quoi le genre de choses c'est qu'on doit éviter?
Ben, quand vous êtes dans une école où non seulement le directeur connaît pas les noms de tous ses élèves, il connaît même pas les visages de tous ses élèves, mais il connaît même pas les noms et les visages de tous ses professeurs, vous êtes dans une machine complètement impersonnelle et quand il va y avoir des problèmes qui vont surgir, il n'y aura personne pour les régler. Je pense que c'est à peu près ça. Alors que quand vous restez à l'échelle humaine, hein, Small is Beautiful, le livre de l'économiste Shoemaker, Small is Beautiful, ça permet de régler beaucoup plus. Et bon, l'élève, évidemment, dans un climat familial, on le sait, ça, les études pédagogiques le prouvent. Un élève réussit mieux quand il est capable de s'identifier à son école. C'est pour ça, par exemple, on encourage beaucoup le sport et avec raison, parce que si vous vous identifiez aux équipes sportives de votre école, vous allez vous identifier à l'école et ça a un impact positif sur la performance académique. Mais le mieux, la meilleure identification qu'on peut avoir avec son école, c'est quand on connaît le directeur. Quand le directeur sait qui on est, quand le directeur connaît nos parents. Quand les professeurs peuvent avoir une relation vraiment personnelle avec les parents, quand les parents s'intéressent à l'école, et ça, vous allez pouvoir faire ça seulement si vous avez des écoles à petite échelle.
C'est intéressant, j'ai jamais pensé à cet exemple-là, mais ça parlait.
Écoutez, si vous voulez régler les problèmes d'éducation au Québec, là, pas même bien compliqué, passons de classes de 32 à des classes de 16. En Suisse, la loi interdit d'avoir au niveau secondaire des classes de plus de 14 élèves. Pas pour rien que la Suisse a les meilleures performances éducatives dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on a des mauvais professeurs, ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises formations, ce n'est pas parce qu'on a des mauvais élèves, c'est parce qu'on est trop nombreux.
Ouais. C'est intéressant parce que une des choses qui caractérise le monde moderne, c'est de détruire les hiérarchies intermédiaires entre l'individu et l'État, où on se débarrasse, disons, de la famille, de groupes communautaires, de la paroisse, etc. Puis de plus en plus, c'est juste l'individu puis l'État qui va rassembler comme tous les individus avec des lois strictes. Puis j'avais jamais pensé au fait que c'est vrai même dans la structure des écoles où effectivement, j'étais dans une polyvalente de 2 000-3 000 personnes. Puis ça même, tu sais, jamais venu comme en tête, malgré toutes les choses que je sais sur les problèmes de modernité, etc., qu'effectivement, c'est pas une structure, c'est pas une structure normale puis qui aide l'épanouissement des étudiants d'être dans une hiérarchie aussi peu haute, là, d'avoir juste comme une masse d'étudiants avec quelques profs puis un directeur. C'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça, mais je vois le temps qui file, puis je veux quand même garder le temps pour parler un petit peu des solutions. Je vous avais déjà parlé un petit peu de comment moi je vois les choses. Là. Je vois qu'au Québec, présentement, il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas leur histoire, sont curieux sur des questions identitaires parce qu'ils voient qu'il y a des échecs manifestes dans la culture autour d'eux. Puis il faut réussir à donner une vision positive de l'histoire. Puis aussi à déconstruire la mauvaise version de l'histoire qui nous a été racontée avec la Révolution tranquille. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais je serais curieux de savoir, vous, de votre point de vue, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes pour se sortir de notre malaise?
Ben, écoutez, moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule Sous le lys et la croix, alors qui fait toute l'histoire du Québec, des origines jusqu'à nos jours. Et c'est en fait le fruit de mon expérience d'enseignant au secondaire. C'est un livre que je voulais pédagogique, accessible à tout le monde, mais avec une certaine vision. Parce que, voyez-vous, quand on écrit un livre d'histoire, on peut faire deux sortes. Soit on fait un manuel simplement pour raconter les faits, ou soit on fait un essai pour expliquer. Bon, des manuels qui racontent les faits, il y en a beaucoup. Vous savez, les livres qu'on utilise dans nos écoles secondaires aujourd'hui sont assez bien faits, hein? Le problème n'est pas au niveau des manuels, mais peut-être au niveau des professeurs qui peuvent mal le transmettre, mais les manuels sont assez bien faits, quoique ils mettent peut-être pas assez l'accent sur l'importance de l'Église catholique dans notre histoire, et je leur reproche aussi peut-être de surestimer le rôle des Amérindiens. Il y a beaucoup, beaucoup, peut-être un peu trop de place pour les Amérindiens, puis pas assez pour l'Église catholique, mais d'une manière générale, il n'y a pas de faussetés qui sont racontées dans ces manuels-là. Mais vous n'aurez pas la trame de fond, la ligne, l'idée maîtresse. Un manuel d'histoire doit encourager le patriotisme. Et pour encourager le patriotisme, il faut que l'histoire nous aide à nous situer, nous, en tant qu'individus, dans une collectivité, et notre collectivité dans un temps, et puis dans le monde, bon, par rapport aux autres. Alors, je dirais que les manuels d'histoire donnent beaucoup d'informations, mais ne les classent pas pour nous donner la direction à suivre. Alors, c'est ce que j'essayais de faire, moi, dans mon livre, de donner une certaine direction sans négliger l'information, parce que je l'ai fait pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Je me dis, je m'adresse à des élèves de secondaire 3-4, là, qui ne connaissent absolument rien. Parce que là, faire un essai, Yann Hillero a écrit des livres extraordinaires sur l'histoire, mais il faut déjà connaître l'histoire pour être capable de lire Lionel Gros. Alors, à un moment donné, il faut commencer à quelque part. Alors, il y a ce livre-là que moi, je recommande. Mais je dis aussi, de toute façon, quand vous lisez de l'histoire, on ne perd jamais rien à lire un livre d'histoire. C'est bien, bien rare qu'un livre d'histoire vous donne pas grand-chose. Un livre de philosophie, ça peut être une perte de temps sèche, s'il est mauvais. Mais c'est rare qu'un livre d'histoire est mauvais au point que vous pouvez dire c'est une perte de temps sèche. Il y a toujours des événements quand même que vous allez apprendre. Et moi, je recommande beaucoup la biographie. La biographie, c'est intéressant, c'est centré sur un personnage. Alors, c'est comme, encore une fois, j'en ai lu beaucoup dans ma vie, puis Ouais, une biographie, c'est souvent la meilleure approche qu'on peut avoir en histoire.
C'est bon. J'aurais une question.
Alors, remarquez, je veux dire en passant aussi quelque chose. Wikipédia, là, quand je consulte Wikipédia sur l'histoire, d'habitude, c'est bon. D'habitude, là, c'est pas. Il y en a qui recommandent pas Wikipédia. C'est vrai que ça peut être un peu biaisé idéologiquement parfois. Mais il y a beaucoup de faits qui sont rapportés, il y a beaucoup de références, et en général, quand il y a différents points de vue, on présente les différents points de vue. Bon, on en valorise toujours un peu plus un que l'autre, peut-être, mais oui, effectivement, commencer une recherche par Wikipédia, c'est utile.
Un des aspects de l'histoire que pour l'instant je pense que c'est pas disons, tout de suite quelque chose qui passerait si bien au Québec, mais on voit que ça commence à bien passer dans d'autres milieux là, puis je serais pas surpris que ça s'en vienne au Québec aussi avec le reculement de la sécularisation où on connaît, on voit des gens qui sont plus ouverts à aux versions hagiographiques de l'histoire, de parler plus ouvertement des miracles, des choses que les saints font qui sont hors de l'ordinaire. Puis de raconter l'histoire de façon plus mythologique, on voit plus d'ouverture à ça. Puis il faut comme explorer ça encore plus pour voir à quel point ça va mordre, mais c'est une chose aussi que je serais curieux d'approfondir si jamais vous avez des ressources, des choses à suggérer là-dessus. Ou qu'est-ce qui pourrait nous aider à raconter une histoire du peuple canadien français qui, tu sais, met pas de côté les miracles, qui est ouverte à l'intervention de Dieu, etc.
Ben, ça, on manque pas de bonnes vies de saints qui ont été écrits. On en a eu beaucoup d'abord au Québec, et puis il en manque pas, donc ceux qui recherchent ça. Mais l'historien doit quand même être un peu prudent. Faut pas, on n'explique pas l'histoire par les miracles, hein. D'ailleurs, on a commencé à parler de la survivance française. Vous voyez, j'ai tenu compte de facteurs naturels d'abord. Mais les facteurs naturels se redonnent de manière providentielle. Il faut savoir que la providence, ben, c'est Dieu. Il y a une volonté à un moment donné dans l'histoire. Tout le monde a un rôle à jouer, hein. Chaque être humain qui vient au monde a un rôle à jouer. Et je suis de ceux qui pensent que les peuples aussi ont des rôles à jouer. C'est pas un hasard, si il y a différentes langues, il y a différentes races, il y a différentes cultures. Ça fait partie du plan de Dieu, cette diversité-là. Maintenant, le sens profond, c'est quoi? Ben là, ça peut être plus difficile à saisir. Au Québec, il y a un célèbre texte, La vocation de la race française en Amérique, de Monseigneur Louis-Adolphe Paquette, qui a été énormément ridiculisé pendant la Révolution tranquille, parce qu'on accusait justement Monseigneur Paquette de s'opposer à l'industrialisation, ce qui est complètement faux. On le citait hors contexte. Mais ce qu'il disait, par contre, c'était que la mission des Canadiens français en Amérique du Nord, ce n'était pas d'abord une mission de succès économique ou matériel. Le Canada français devait être à l'Amérique ce que la France était à l'Europe, c'est-à-dire un vecteur de foi et de culture, de civilisation. Mais l'aspect économique, l'aspect industriel ne doit pas être négligé, mais il doit être bien ordonné, c'est-à-dire mis en deuxième place. Alors, je suggère aux gens de lire ce fameux texte et de voir que pourrait peut-être encore s'appliquer aujourd'hui.
Ah, parfait. Intéressant. J'avais pas entendu parler de ça, mais ça sonne définitivement dans mes cordes. Je vais aller regarder ça. Puis, merci, Dr. Dupuis, d'avoir été avec nous. J'ai trouvé ça très intéressant, puis il y a plein de choses que je vais vouloir creuser. Donc, je rappelle aux gens, vous avez mentionné deux de vos livres, mais il y en a d'autres que je vais mettre en description de l'épisode. Allez consulter ça. Puis aussi, vous avez une chaîne YouTube, vous avez aussi enregistrer plusieurs vidéos qu'on peut trouver sur d'autres chaînes. Si les gens cherchent votre nom sur YouTube, ça va être assez facile de trouver plusieurs vidéos. Donc, je pense que ça fait le tour. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre que vous voulez rajouter, Docteur Dufy, ça va être ça.
Non, ça va.
Parfait.
Je vais terminer sur une phrase que j'aime bien. C'était, je crois qu'elle vient de... Parce que parfois, on a tendance à se décourager Ah, face à la situation, on est pessimiste, ah, c'est la décadence, on n'en sortira jamais et tout. Et effectivement, il y a bien des éléments pour. Mais il y avait une formule qui était employée par le comte de Paris, successeur des rois de France. Ben, celui qui est. Bon, il est mort maintenant, mais il avait écrit un livre avec un titre L'avenir dure longtemps. Alors, donc, il y a toujours un espoir. Alors, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que oui. En tout cas, moi, je regarde certaines réactions dans la jeunesse actuellement. Et il y a un réveil qui est en train de se faire.
Parfait. Donc, très bonne façon de finir. Merci encore, Dr. Dupuis. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se reverra dans quelques semaines pour le prochain. Bye bye.